Vous êtes sur RTL.
Minute pour comprendre. C'est une information qui est peut-être passée relativement inaperçue durant le week-end où le coronavirus et le 49-3 ont occupé une très large partie dans les journaux. La crise aux portes de l'Europe. Bonjour Frédéric Ansel.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et auteur, je le rappelle, de mon dictionnaire géopolitique paru aux presses universitaires de France. Je le disais, une crise de grande ampleur est en cours entre la Syrie et la Turquie avec une escalade de la violence et nous avons un peu de temps pour en parler ce matin avec vous. Pour que nos auditeurs comprennent bien la situation, pouvez-vous nous éclairer sur cette reprise de tension entre la Syrie et la Turquie?
Oui, la Syrie et la Turquie ont eu des relations extrêmement difficiles tout au long du XXe siècle, simplement parce que la Turquie faisait partie de l'OTAN, et toujours d'ailleurs, officiellement en tout cas, alors que la Syrie est alliée de l'URSS puis de la Russie depuis les années 50. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le
deuxième point... C'est une ligne de front historique.
Ah oui, une ligne de front politique historique, absolument. Ensuite, vous avez, à la fin des années 90, début des années 2000, un vrai rapprochement, et M. Erdogan, qui considère aujourd'hui M. Assad comme un assassin à juste titre, ne l'a pas toujours considéré comme tel, puisqu'en 99-2000, vous avez d'excellentes relations qui se créent entre ces deux pays contre les Kurdes. Puisqu'évidemment, chacun craint les Kurdes, qui se trouvent d'ailleurs pour beaucoup à la frontière entre la Turquie et la Syrie.
Oui.
Troisième point, enfin, le printemps arabe qui débute en 2011, qui va faire énormément de dégâts, jusqu'à aujourd'hui, la guerre civile et la guerre en Syrie fera pratiquement 500 000 de morts, c'est le printemps arabe la crise liée au printemps arabe la plus mortelle et mortifère de l'ensemble du monde arabe, et là la Turquie prend fait et cause contre Assad en faveur des groupes islamistes radicaux.
19 soldats syriens ont été tués la nuit dernière par des tirs de drones turcs dans les environs d'Idleb en Syrie. C'est quoi cette opération bouclier de printemps lancée par la Turquie sur la province d'Idleb en Syrie?
Alors Idleb, c'est juste à côté de la frontière turque.
Oui.
Donc la Turquie est un État souverain et qui a parfaitement le droit de défendre ses frontières. Mmh. Sauf que là, en l'occurrence, l'armée turque intervient dans un autre État officiellement souverain, qui est la Syrie, et surtout un État qui est allié de la Russie. Et l'erreur catastrophique, me semble-t-il, stratégiquement parlant, de M. Erdogan, c'est de considérer qu'au fond, la Russie pourrait éventuellement lâcher Bachar el-Assad. On a bien vu qu'il n'en était rien. Il n'en avait rien été déjà avec son père Hafez de 70 à 2000, au pouvoir déjà à Damas à l'époque. Et on voit bien que la Russie, surtout après 9 ans de soutien massif à la Syrie, ne lâchera pas la Syrie.
Mais quel est le but du président turc? Asseoir sa puissance, faire reculer les opposants, qu'ils soient des anciennes Daesh, kurdes ou des partisans de Bachar el-Assad? Enfin, quel est son vrai propos, si je puis dire, militaire et sur place dans la région?
Alors les deux plus un troisième, je commence par le troisième. À usage interne, Erdogan ne peut pas laisser croire à sa population qu'il subit une défaite. Ça ne correspond absolument pas à sa propre personnalité, à une forme assez paranoïaque de pouvoir, il faut bien le dire, ce n'est pas une injure. Et il a besoin de montrer qu'il sait faire la guerre et qu'il va la remporter. À usage interne, encore une fois. Deuxième point, surtout au moment où l'économie fonctionne mal. Deuxième point, il doit absolument démontrer à l'ensemble du monde arabe aux musulmans que la vraie puissance dans la région, c'est la Turquie, et non pas la Russie, l'Iran, Israël ou que sais-je encore. Enfin, trois, il considère que sa frontière est directement menacée, parce qu'encore une fois, Idleb, c'est juste à côté de la Turquie, et il faut bien reconnaître quelque chose de très objectif,
c'est que le point où il a raison.
Là, il a raison. C'est-à-dire que entre 2,5 millions et 3 millions de réfugiés syriens ont déjà fui ces dernières années en Turquie. Autrement dit, il les a chez lui, sur son propre territoire. Et il craint qu'un nouveau million de réfugiés débarquent en réalité dans son pays.
Je vais revenir dans un instant, mais on a bien compris, on vous écoutait en fait, qu'il y a aussi un affrontement très clair aujourd'hui entre la Russie, présente militairement, et la Turquie. Est-ce qu'un conflit objectif entre ces deux pays est possible ? Ou ce sont des escarmouches, même quand ça fait des dizaines de morts?
Faute de combattants turcs, il n'y aura pas de conflit entre Moscou et Ankara. Je dis cela parce qu'on a affaire à un Gulliver face à un Lilliputien. D'un point de vue militaire, la Turquie est plus puissante que la Syrie. On le voit depuis des années. En revanche, dès que la Russie intervient militairement, la Turquie est défaite. Autrement dit, d'ailleurs Erdogan l'a rappelé ces derniers jours, il ne veut pas d'affrontement avec la Russie. Évidemment, sinon il perdra. Cela dit, je l'ai dit ici à votre micro et je le dis depuis des années, je le répète, contrairement à ce qu'on... pour faire pièce à l'idée reçue, il n'y a pas, il n'y a jamais eu d'alliance entre Moscou et Ankara. Nous avons affaire à deux États dont les objectifs, les stratégies et les représentations identitaires dans le Caucase, mais également au Moyen-Orient, sont tout à fait divergentes, voire antagonistes.
Alors, il faut venir maintenant à la situation des migrants. Depuis vendredi, la Turquie a annoncé l'ouverture de ses frontières. Juste un chiffre éloquent pour que nos auditeurs comprennent les enjeux. La Turquie accueille depuis le début de la crise syrienne aujourd'hui près de 3 600 000 Syriens sur son sol. Et le président turc a dit ouvrir ses frontières pour faire passer ses réfugiés directement en Europe. D'ailleurs, ça commence dans les îles grecques où c'est la panique depuis 48 heures.
Oui, c'est la fameuse épée de Damoclès brandie en permanence depuis des années par M. Erdogan, considérant que l'Europe ne le soutient pas suffisamment dans ses différentes interventions militaires en Syrie. Mais j'ai toujours considéré que c'était une épée de Damoclès en carton. Pourquoi ? Parce que dans son offensive en 2019 au nord de la Syrie, M. Erdogan, en chassant les Kurdes de cette région, disait « c'est pour renvoyer chez eux, en Syrie, ces 3 millions de réfugiés ». Ça, on peut le concevoir et on peut le comprendre. Oui. Mais on ne peut pas à la fois envahir le nord de la Syrie, comme il l'a fait en 2019, en chassant d'ailleurs les Kurdes, prétendant renvoyer donc chez eux des réfugiés syriens, et en même temps considérer que il va nous les envoyer en Europe pour nous punir en quelque sorte d'un manque de soutien. Ça, c'est quelque chose qui d'abord est cynique, mais surtout qui n'est absolument pas possible. Et aujourd'hui, la pression qui est exercée sur l'Europe, elle est en réalité sur l'OTAN, dont la Turquie fait partie, et dont Monsieur Erdogan reproche de n'être pas assez proche en quelque sorte.
Il n'empêche que ce sont les Grecs qui éclusent en ce moment.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la frontière, il n'y a que deux frontières européennes.
La Grèce, c'est l'Europe, hein.
Absolument. La Grèce et la Bulgarie, accessoirement. La Grèce, c'est l'Europe. C'est l'Europe, mais c'est aussi l'OTAN. J'insiste, parce que nous avons affaire aujourd'hui à un conflit politique au sein même de l'OTAN, puisque la Grèce et la Turquie font partie de l'OTAN.
Est-ce que je reviens à l'OTAN dans un instant, parce que c'est très important aussi. Puis alors, il y a une activité, depuis plusieurs mois, très intéressante et beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on peut avoir une crise migratoire européenne d'ampleur, comme on l'a connue il y a encore quelques années ?
La réponse est oui. La réponse est oui, si l'armée grecque ou si l'armée bulgare ne sont pas dépêchées à la frontière, oui, bien sûr, oui. On peut imaginer même d'ailleurs un pouvoir dirigé par Monsieur Erdogan, chassant littéralement des centaines de milliers de personnes, peut-être 1 ou 2 millions, vers l'Europe.
Au moment où on parle, il les pousse vers l'Europe, objectivement ? Ou c'est juste une stratégie de tension ?
Et pour l'instant, on est sur une stratégie de tension. Pour l'instant, il exerce des pressions fortes sur l'Europe et, je le répète de manière plus générale, sur l'OTAN.
Les migrants sont une monnaie d'échange, un moyen de pression. Est-ce qu'on va vers une crise humanitaire en plus d'une crise migratoire ?
On peut assister, à moins qu'on soit dedans, peut-être déjà, sans qu'on en parle assez. On peut parfaitement assister à la situation suivante qui a déjà prévalu dans d'autres pays et à différentes époques. C'est-à-dire que ces gens seraient poussés à la frontière turque, donc ils auraient interdiction de rester en Turquie, mais ils se retrouveraient face à une barrière militaire, une barrière physique, logistique, grecque et bulgare. Autrement dit, dans une espèce de no man's land, et là, il faudrait que l'ONU interviennent pour les nourrir. C'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui invraisemblable.
Un dernier point, que peut faire l'OTAN et à travers elle, l'Europe ?
L'OTAN, ce qu'elle peut faire, c'est demander à la Turquie si elle est dedans ou si elle est dehors. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, demander à l'OTAN d'intervenir en faveur des interventions militaires, donc de la Turquie notamment, contre les Kurdes et aujourd'hui contre l'armée syrienne en Syrie, et en même temps acheter des armements lourds à la Russie et interdire l'accès de cette même OTAN à la base d'Inchirli, qui est quand même la plus grande de l'OTAN à travers le monde.
Merci beaucoup Frédéric Ancel. L'Union européenne a annoncé une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères cette semaine pour faire le point sur ce regain de violence à Idlib notamment. Je renvoie par ailleurs au dictionnaire géopolitique disponible aux presses universitaires de France. Bonne journée à vous.
Merci. Yves Calvi.